VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité. Ici, aux États-Unis, la campagne pour la présidentielle américaine de 2020 est maintenant en cours dans les plus. Dans les deux plus importants partis politiques du pays. Côté opposition démocrate, 22 aspirants à la Maison-Blanche briguent la nomination du parti comme candidat à la présidence. Et dans le camp républicain, le président Donald Trump a lancé hier soir à Orlando, en Floride, sa campagne de réélection. À cette occasion, le chef de l'exécutif américain a attaqué avec violence les démocrates et les a accusés d'être guidés par la haine. Les précisions d'Irénée Armand-Umbo.
Fidèle à son style provocateur, le président américain en quête d'un second mandat a d'entrée enflammé la salle. Faisant huer tour à tour les médias fake news, Hillary Clinton, sa rivale de 2016, son prédécesseur démocrate Barack Obama ou encore l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne de 2016, il a accusé ses adversaires politiques de vouloir détruire le pays. Quatre ans de plus, scandaient ses partisans dans la salle, rythmant un discours à la tonalité très agressive, sans de véritables nouvelles propositions politiques. Promettant un séisme dans les urnes, M. Trump l'a assuré, nous y sommes arrivés une fois, nous y arriverons encore, et cette fois nous allons finir le travail. Donald Trump, en position très délicate dans les sondages, sait qu'il devra s'imposer dans le Sunshine State, l'état clé de Floride, s'il veut se maintenir 8 ans au pouvoir, comme ses prédécesseurs Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton.
Afrique maintenant, au Niger, 2 policiers ont été tués et 4 blessés mardi soir quand des hommes armés ont attaqué un poste de police à l'entrée nord de Niamey sur la route en direction de Wallam. Il était 23h quand on a entendu des tirs nourris venant du poste, a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat un témoin qui vit à proximité. C'est la première attaque aussi proche de la capitale du Niger qui fait face à des incursions récurrentes de groupes djihadistes dans l'ouest du pays ainsi qu'à des raids du groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans le sud-est frontalier du Nigeria. Au Mali voisin, les FAMA, les forces armées maliennes, renforcent ce mercredi leur présence aux environs de 2 villages d'Ogon du centre du pays, attaqués lundi par des hommes armés. Cette nouvelle tuerie visant l'ethnie d'Ogon dans les localités de Garafani et Yoro a fait 38 morts et de nombreux blessés dans une région où le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a récusé il y a seulement quelques jours toute notion de conflit interethnique. Plus au nord, à Gossi, dans la région de Tombouctou, une patrouille des FAMA est tombée dans une embuscade. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, donne plus de détails sur ces violences, en commençant par l'attaque contre les 2 villages d'Ogon lundi.
Si à Sobanda, la cible des assaillants étaient des enfants et des vieilles personnes, cette fois-ci, à Gagafani et Yoro, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, ce sont des bras valides qui ont été tués dans les champs. Le bilan provisoire est de 38 morts et de nombreux blessés. Le gouvernement qui qualifie cette attaque de terroriste a envoyé un contingent de forces de défense et de sécurité pour sécuriser les populations et leurs biens et traquer les auteurs de ces attaques. Par ailleurs, une patrouille des FAMA est tombée dans une embuscade terroriste à Baguilan, sud-est de Gossi. Des renforts ont aussi été envoyés pour secourir les éléments victimes d'attaques terroristes et sécuriser la zone. Le bilan n'est pas encore connu, mais le gouvernement rassure qu'il informera la population de l'évolution de ces différentes situations. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Bénin, les avocats de l'ancien président Thomas Yayi Boni sont montés au créneau à la suite de l'intervention du procureur de la République pour apporter des clarifications sur la supposée implication de l'ex-chef de l'État dans les manifestations post-électorales de mai à Cotonou. Le point avec notre correspondante sur place, Ginette Fleur, à Dandé.
Selon Maître Kato Atita, l'un des avocats de Yayi Boni, son client ne saurait être le seul responsable des dégâts enregistrés lors des événements du 1er et 2 mai à Cotonou. Pour lui, l'ancien chef d'État fait partie d'un bloc et s'accrocher à sa seule personne à tout l'aide d'un harcèlement. Il déplore l'isolement de son client et exige que les droits de ce dernier soient respectés. Les deux avocats ont aussi relevé des erreurs judiciaires contenues dans l'intervention du procureur de la République après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Tonu, Mariome Tonu. Selon Maître René Agbodjo, avocat personnel de l'ancien chef d'État, le fait d'avoir déduit publiquement l'implication personnelle de Yahya Boni dans les interrogatoires et pièces du dossier viole l'article du Code de procédure pénale et qui stipule que la procédure est secrète. Aussi, selon les avocats, affirmer de façon publique que le juge voudrait prendre des mesures coercitives à l'encontre de l'ancien chef d'État est comme si le procureur est devenu le porte-parole du juge alors qu'il n'est que le défenseur de la société. Les deux avocats ont aussi souligné la violation de la présomption d'innocence. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, la prochaine élection présidentielle aura lieu fin novembre. Le président José Mario Vaz a publié hier un décret en ce sens après des consultations sur les moyens de sortir de la crise politique qui secoue son pays. John Lindon.
L'élection présidentielle est fixée au 24 novembre 2019. Cette date est le fruit d'une concertation entre le président Vaz, les 49 partis politiques, le gouvernement et la Commission nationale des élections. L'annonce de cette date n'a pas débloqué le contentieux autour de la composition du bureau de l'Assemblée nationale où le PAIGC et ses alliés contrôlent une majorité de 54 sièges sur 102. Malgré le bon déroulement des élections législatives du 10 mars, remportées par le PAIGC dirigé par Domingos Simoes Pereira, le pays peine à sortir de la crise politique qu'elle traverse depuis août 2015. La crise politique actuelle inquiète, d'autant que les élections de 2014 devaient marquer un retour progressif à l'ordre dans ce pays habitué des putsch à répétition.
Afrique centrale maintenant, au Gabon, une brigade bleue comme plan d'attaque pour faire face au phénomène des fuites d'eau dans plusieurs quartiers de Libreville, la capitale. Le gouvernement gabonais veut en finir ainsi avec les pénuries qui affectent les ménages dans ce domaine. Reportage de notre correspondant Ismaël Obianze à Libreville.
L'urbanisation galopante de Libreville impose de nouveaux défis au gouvernement, dont celui de la mise en place d'un plan d'adduction d'eau potable encore absent dans de nouveaux quartiers. C'est le cas ici derrière l'hôpital militaire au kilomètre 9 de la capitale. Irène Moussavou, habitante du PK9.
Nous sommes obligés d'utiliser l'eau de la rivière pour laver les habits des nouveau-nés, pour se laver, pour laver les assiettes.
Se doter d'un compteur d'eau n'est pas à la portée de tous les ménages. Gabriel Mbina, fonctionnaire à la retraite.
Alors, on n'a pas moins de 500, 600, 700 000 mètres dans la poche pour que vous puissiez avoir de l'eau chez vous. C'est parce qu'il y a d'abord un problème d'abord d'accès. Il n'y a pas la route. Et deuxièmement, la SCG ne fait pas un effort de se rapprocher des populations pour avoir de l'eau. Ce cours d'eau que vous avez vu tout à l'heure, là, il y a des femmes, des enfants qui se lavent là. Et chaque jour, beaucoup sont victimes de la bilharziose. On n'a pas de choix.
Alors que le PK9 de Libreville espère en finir avec les cours d'eau insalubres, les quartiers Aveya, Nkembo sont bien servis en eau potable, mais restent parfois de longs mois sans goutte d'eau au robinet. Constant Eyenba, étudiant.
Ça fait pratiquement de mois que l'on arrive. C'est vraiment une situation qui n'est pas bien pour les populations.
Pour faire face à cette situation difficile, le gouvernement vient de mettre en place une brigade bleue pour réparer les fuites d'eau à Libreville et ses environs. Tony Ondomba, ministre gabonais de l'énergie et des ressources hydrauliques.
La production de SEG est estimée à 230 000 mètres cubes d'eau aujourd'hui. L'eau traitée au niveau des usines de tous les différents forages qui sont environnants. Nous avons près de 50% de cette eau qui est produite et donc traitée par la SEG qui n'est pas commercialisée en raison notamment des pertes techniques et des fuites. Imaginez-vous une ville comme Port-Gentil consomme en moyenne 30 000 mètres cubes d'eau. Lorsque vous faites le ratio, nous perdons presque 130 000 mètres cubes d'eau uniquement dans la région du Grand Libreville. C'est-à-dire l'équivalent de 3 à 4 villes comme Port-Gentil. Si nous arrivons à lutter durablement et efficacement contre ces fuites, ce sont autant d'eau que nous pourrons mettre à la disposition des populations et qui seront donc de nature à venir résorber le stress hydrique que nous observons dans les quartiers.
Depuis Libreville, Ismaël Obianze pour VO Afrique.
Et vous terminez en Éthiopie. Le maire d'Addis Abeba a annoncé ce mercredi l'interdiction des motos dans sa ville à compter du 7 juillet. Mesure destinée à stopper la criminalité croissante dans la capitale éthiopienne. L'interdiction a été décrétée sur la base d'une étude ayant montré qu'un nombre significatif d'activités criminelles commises dans la capitale le sont à l'aide de motos, notamment les vols à l'arraché ou les braquages, a expliqué le maire Takile Ouma à des médias locaux. Mais il y aura des exceptions, notamment pour des motos utilisées par les entreprises ou des ambassades, ainsi que le transport du courrier. Restez à l'écoute de VOA Afrique.